Avec vous et trouvez avec moi 1 Thessaloniciens chapitre 3. Nous avons repris tout doucement cette lettre. Nous avons laissé pendant plus de 8 mois, mais ça fait déjà 3 semaines que nous n'avons pas été dans cette lettre. Donc parfois ça semble que c'est un coup par ici, un coup par là-bas, mais la parole de Dieu est tellement riche qu'il y a point d'endroit où nous pourrions aller pour nous nourrir. Et je vous invite à suivre ce troisième chapitre de cette première lettre écrite à cette église quelques mois après sa fondation. Paul, Sylvain, Timothée, qui ont été au tout début de cette église, ont dû quitter l'église rapidement. La Bible nous dit même la nuit, sous couvert de la nuit, pour leur propre sécurité, mais aussi pour la sécurité de l'Église qui restait derrière. Et Paul est donc inquiet pour ces personnes. Est-ce qu'ils vont persévérer dans l'amour de Dieu? Est-ce qu'ils vont persévérer dans la foi envers Dieu? Il essaye à deux reprises, il nous dit dans cette lettre, de revenir lui-même. Mais il est empêché par Satan. Et il ne peut pas venir à lui-même rendre visite. Donc ce qu'il fait, il envoie son lieutenant, si vous voulez, Timothée, probablement beaucoup moins connu, qui peut venir plus discrètement en ville et pourra se rencontrer avec cette église. Et Timothée donc passe quelques temps, peut-être que quelques jours avec cette église, et puis il repart pour voir Paul. Et Paul, en recevant Timothée, il a des nouvelles de cette église, il va écrire cette lettre. Écoutez ce qu'il dit au chapitre 3, 1 Thessaloniciens 3, c'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des afflictions présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Destinés à quoi? À des afflictions. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des afflictions, comme cela est arrivé et comme vous le savez. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais quelqu'un pour m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous n'ayons travaillé en vain. Mais Timothée, récemment arrivé ici, donc probablement à Corinthe, de chez vous, à Thessalonique, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de quoi? De votre amour. Ce sera le sujet de notre message, et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir comme nous désirons aussi vous voir. En conséquence, frères, dans nos angoisses et nos épreuves, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. Car maintenant nous vivons, puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Quelles actions de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu, à votre sujet, pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanisse notre route pour que nous allions vers vous. Que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous, à l'exemple de celui que nous avons pour vous, qu'il affermisse ou afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant notre Dieu, notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Alors on s'est posé la question la dernière fois, que fait l'apôtre dans ces versets 11 à 3. Ah, le projecteur s'est éteint, je ne sais pas si on peut le rallumer, mais ce n'est pas grave. Et on a vu qu'il exprime sa prière à Dieu sous forme d'un vœu adressée aux hommes. Il exprime sa prière à Dieu sous forme d'un vœu adressé aux hommes. Et c'est adressé à deux personnes en même temps. Si vous regardez bien le verset 11, on voit que dans un temps, il parle à Dieu parce que c'est une prière, mais aussi il parle à eux parce qu'il dit que nous allions vers vous. C'est un peu comme quand on dit que Dieu te bénisse. On exprime une prière à Dieu tout en nous adressant à la personne. Et nous allons considérer donc cette partie du verset 11 à la fin du chapitre comme avant tout une prière adressée à Dieu, quoique c'est aussi un vœu adressé aux hommes. Et on s'est posé la question, à qui adresse-t-il sa prière? Est-ce que vous avez noté le verset 11, que Dieu lui-même, notre Père, et notre Seigneur Jésus, dans l'original, aplanissent, comme si c'est un seul être. Il met Jésus, fils de Marie, à la même hauteur, à la même place que Dieu lui-même, notre Père. Il les adresse ensemble, comme étant Dieu. Là, dans une des premières lettres du Nouveau Testament, nous voyons que Jésus-Christ est adressé comme étant Dieu lui-même. La divinité de Jésus-Christ n'est pas quelque chose rajouté par la suite. On le trouve assez souvent sur Internet. Juste récemment, je suis tombé sur encore un site sur Internet et qui disait, ah, vous savez, la Trinité, ça a été ajouté pendant le Moyen-Âge, etc., par l'Église catholique. Non! Depuis le tout début, Jésus est adressé comme étant Dieu à lui-même. Ça, c'est le verset 11. Le Père et le Fils sur un pied d'égalité. Le Père et le Fils sur un pied d'égalité. Et puis nous avons posé cette question, que demande-t-il dans sa prière? Que demande-t-il dans sa prière? Et c'est assez facile de repérer si vous notez les trois occurrences du mot « que ». Vous pouvez les entourer ou les numéroter, vous les verrez. Verset 11, « Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanisse notre route. » Verset 12, « Que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez, etc. » Et verset 13, « Qu'il affermisse vos cœurs dans la sainteté. » Donc la première requête, c'est que Dieu permette à son Église de jouir d'un ministère efficace en son sein. Cette Église est laissée un peu orpheline et il dit que Dieu lui-même aplanisse notre route pour que nous allions vers vous. Il dit, Timothée est un ministre de Dieu dans l'Évangile de Christ et nous prions que ce soit moi, Timothée, Sylvain ou même d'autres, que vous puissiez jouir d'un ministère efficace en son sein. Dieu a planifié pour que l'Église puisse s'épanouir avec le ministère ou sous le ministère de ses ouvriers, de ses pasteurs ou bergers ou anciens. Plusieurs mots pour ça dans la Bible. Et puis nous avons constaté deux obstacles de Satan. Nous avons vu la présence de Satan dans ce chapitre. Un obstacle que Satan utilise encore est l'absence de ministre de Dieu dans l'Évangile. C'était le problème à Thessalonique, ils étaient chassés de la ville, il n'y a plus de ministres, ils étaient laissés là tout seuls. Et il dit, Satan nous a empêchés d'aller vers vous. Et c'est pour cela que Jésus a commandé à ses disciples de prier le maître de la moisson d'envoyer, quoi? Des ouvriers dans la moisson. Et un autre obstacle que nous avons considéré, nous ne trouvons pas dans cette lettre, mais nous trouvons surtout en 1 Corinthiens, c'est la rupture de la relation entre le ministre de Dieu et le peuple de Dieu. Ça nous amène donc à cette deuxième requête que nous voulons considérer donc aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il demande dans sa prière? Première requête, vous pouvez mettre verset 11. Il avait parlé de son désir pour l'équipe missionnaire, que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus aplanisse notre route pour que nous allions vers vous. Et la deuxième requête au verset 12 est introduite par la phrase « Mais vous ». littéralement dans le grec. Le pronom « vous » est ramené au début de la phrase pour contraster avec le « nous » du verset 11. Donc, peu importe ce qui nous arrive, peu importe ce que le Seigneur a planifié pour Paul et ses compagnons, il prie maintenant pour eux une bénédiction spirituelle pour l'Église. Et donc, il dit, regardez-le au verset 12, « et vous, comme dit la Bible annotée, ou « et quant à vous, selon le Darby ». Donc, on voit en Paul un équilibre parfait entre une personne qui voulait être pleinement active lui-même pour contribuer à la croissance de l'Église et une personne tout à fait réaliste sur le fait que sa présence n'était pas la condition sine qua non de la stabilité, de la santé de l'Église. C'est vraiment un équilibre qui est rare de voir. Il constate en même temps qu'il doit tout faire pour aider cette Église, et donc il veut être là, et en même temps, il réalise que sa présence n'est pas nécessaire. Dieu peut faire les choses autrement. Et aux Philippiens, après avoir parlé de ses désirs d'aller les voir, il leur dit ceci. J'ai peut-être pas ce verset. Mais je vais vous le citer. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Dieu, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Vous voyez, soit que je vienne, soit que je reste absent, je veux apprendre des choses sur vous. Paul dit, je prie que le Seigneur aplanisse ma route pour que je vienne vous voir, mais quoi qu'il en soit, quant à vous, voici ma prière. Regardez-le. Hein? Il dit, je prie que le Seigneur, et le Seigneur, il entend presque certainement Jésus-Christ ici. Hein? Mais comme nous avons vu au verset 11, il ne fait pas de grande distinction entre le Père et le Fils dans cette prière. Les deux étaient Dieu, les deux faisaient quelque chose dans cette église, les deux étaient à l'œuvre, et il prie donc que le Seigneur bénisse cette église. Quel est son souhait pour cette église? Quel serait le souhait pour notre église de la part de l'apôtre? Regardez le verset 12. Et que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres, et pour tous, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. C'est une requête qui concerne l'amour. On est tous d'accord? C'est clair, je crois. Une requête qui concerne l'amour. Plusieurs traductions traduisent cette prière comme si Paul désire que l'amour abonde. C'est ce que j'ai dans le Louis II ici. Et que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez. Mais littéralement, Paul prie que les Thessaloniciens abondent eux-mêmes en amour. Je vais vous lire dans une autre traduction. Et vous, que le Seigneur vous fasse croître et abonder en charité les uns envers les autres et envers tous. C'est la Bible annotée. Ou le Darby. Quant à vous, que le Seigneur vous fasse abonder et surabonder en amour. J'aime bien cette traduction. Qu'il vous fasse abonder et surabonder en amour les uns les autres, envers les uns les autres et envers tous, comme nous aussi envers vous. Le Martin, Osterwald ont presque la même traduction. Alors la différence est subtile, mais significative, je crois. Si l'amour abonde en moi, l'image que j'ai, c'est que je deviens rempli d'amour. Mais qu'est-ce que je fais avec cet amour? Mais par contre, si moi j'abonde et je surabonde en amour, l'image, je crois, est plutôt que cet amour déborde de moi et ressort de moi envers d'autres. Et il prie donc que le Seigneur vous fasse déborder d'amour. Fasse déborder d'amour. Ou comme j'ai mis ici, que le Seigneur nous fasse surabonder en amour entre nous et envers tous. Ça, c'est le verset 12. Le premier, c'est le verset 11. Le deuxième, c'est le verset 12. On parle aujourd'hui de notre empreinte carbone. On parle souvent avec le virus, hein, comment se protéger, comment protéger les autres. Mais on peut se poser la question, est-ce que nous laissons une empreinte d'amour? Nous laissons toujours une empreinte de quelque chose quand nous passons, pour le bien ou pour le mal. Est-ce que l'empreinte que nous laissons dans le foyer, dans le couple, au travail, est une empreinte d'amour? Le Saint-Esprit demande qu'il veut que nous laissions toujours cette empreinte d'amour, que nous abondons et que nous surabondons en amour. Qui ici peut dire, j'ai pas besoin de ce message. J'ai des soucis, mais quant à l'amour, je sais le faire. Je pense que nous avons tous besoin d'abonder en amour. Et donc nous allons noter trois choses que nous trouvons dans ce verset. La source de cet amour, les objets de cet amour, et puis les manifestations de cet amour. Quelle, donc, d'abord, est la source de l'amour dans lequel nous devons surabonder? Quelle est la source? Bien, nous voulons nous rappeler que, qu'est-ce qu'il fait ici? Ce n'est pas avant tout une exhortation. Notez-le bien, il ne dit pas « vous devez vous aimer plus ». Ce n'est pas le temps impératif ici. C'est avant tout, nous avons dit au début, c'est quoi? C'est une prière. C'est un souhait. Notez comment il le dit au verset 12. Que le Seigneur vous fasse croître et abonder en amour les uns envers les autres et envers tous. Qui est donc à l'œuvre? C'est le Seigneur, c'est le produit du Seigneur. Que le Seigneur vous fasse croître et abonder en amour les uns envers les autres et envers tous. L'amour dont il parle n'est pas un phénomène humain. C'est impossible de le créer. On ne peut pas créer un amour pour quelqu'un. Faut arrêter d'essayer parce que ça ne peut pas se faire. Ah, il y a des attirances. Il y a des gens qui sont attirés jusqu'au point qu'ils veulent se marier et puis quelques temps après, ils se trouvent plus attirés et donc ils veulent se séparer. Mais l'amour n'est pas quelque chose que l'homme peut produire. C'est pas un phénomène humain. Et je vous invite à tourner quelques pages une seule page peut-être, pour trouver le chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Et regardez le verset 9. Pour ce qui est de quoi? Même thème ici, hein, l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même. Et puis nous avons ce mot, trouvé une seule fois dans la Bible, théodikatos. Alors, vous connaissez le mot théos, ça vient de Dieu. Et le mot didactos, c'est le mot pour enseigner. Hein, quelqu'un est didactique, on a ces mots, etc. Mais c'est un seul mot, théodidactos, c'est-à-dire enseigner de Dieu. Et il dit, vous avez été enseigné de Dieu à vous, quoi? Vous aimer les uns les autres. C'est quelque chose que Dieu nous enseigne. Il faut aller à une classe divine où Dieu est l'enseignant pour apprendre à aimer les uns les autres. On ne peut pas dire, oh, naturellement, je suis quelqu'un qui aime tout le monde. Non, vous n'avez pas. Vous êtes en train de dire, j'ai rien appris de Dieu. Non, ça vient, cet amour vient de Dieu. C'est Dieu qui nous apprend ces choses. Jésus a dit en Jean 6, 45, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. C'est une promesse de la Nouvelle Alliance. Et ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est quelque chose de divin, de surnaturel, où Dieu enseigne, en fait, à la personne de croire en Christ. Et il nous enseigne aussi, comme nous avons vu en 1 Thessaloniciens, à aimer les uns les autres. En parlant de la nouvelle alliance, il dit en Hébreux chapitre 10, verset 16, « Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois, moi je mettrai une activité divine, et je mettrai mes lois où ? Dans leur cœur, et je les écrirai dans leur esprit. » Et il dit ailleurs que la loi est résumée en ce plus grand commandement d'aimer Dieu, et l'autre qui est semblable, c'est d'aimer son prochain comme lui-même. Et Dieu prend sa loi et il lui-même le met dans le cœur de l'homme. C'est quelque chose de surnaturel. Et quand vous lisez donc 1 Jean, ça revient plusieurs reprises. C'est comme cela que vous savez que vous êtes un enfant de Dieu, parce que vous aimez les enfants de Dieu. Celui qui n'aime pas son frère n'est pas de Dieu, car Dieu est amour. Celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. Vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Il revient fois après fois. Si vous êtes enfant de Dieu, vous avez en vous cet amour les uns pour les autres. Vous connaissez peut-être le nom Matthew Henry, c'était un commentateur anglais, et j'ai entendu, pas très longtemps, le témoignage, il a des écrits, même quand il était jeune, je crois qu'il avait 10 ou 12 ans, et il gardait déjà un journal intime, et dans ce journal, on lit qu'il veut se juger lui-même pour savoir s'il est vraiment dans la foi. Et il dit, c'est un jeune, hein, on a des jeunes ici de 10, 12 ans. Il dit en lui, je sais qu'une marque d'un vrai chrétien, c'est qu'il aime le peuple de Dieu. Après, il va dire, il aime la parole de Dieu. Il mentionne ces deux choses, mais il dit, il aime le peuple de Dieu. Et donc, il se pose la question, est-ce que j'aime le peuple de Dieu plus que, et il mentionne d'autres groupes. C'est une question qu'on doit se poser. Est-ce que Dieu nous a donné cet amour pour le peuple de Dieu? Dans un sens, nous sommes là aujourd'hui parce que nous aimons le peuple de Dieu. Il y a aussi une histoire assez connue de Martin Lloyd-Jones, un prédicateur gallois, qui, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, il était un médecin. Il est monté très haut dans les échelons de la culture anglaise et il est devenu même assistant du médecin du roi. Donc c'est le père de la reine actuelle. Et il est dans une soirée avec ces gens nobles. Et il dit, il sortait, il était chrétien déjà, et il sortait tard la nuit, il entre dans la rue et il voit un groupe. Un fanfare de cuivre, c'était des gens de l'armée de salut qui jouaient, il y avait des trombones, et ils jouaient dans la rue pour les personnes de la rue. C'était des gens extrêmement simples, qui avaient un ministère envers les gens très simples. L'écart social était énorme entre lui qui sortait de cette soirée et ce à laquelle il était affronté devant lui. Et il a dit, par la suite, il a dit, quelque chose dans mon cœur a sauté et m'a dit, ça, c'est ton peuple. Ça, c'est ton peuple. Et par la suite, il a abandonné sa carrière, il est devenu pasteur. Il a donné sa vie à la prédication de la parole de Dieu. Mais c'est quelque chose de surnaturel, on ne le fait pas, c'est Dieu qui le fait en nous. Il nous donne cet amour, et donc il prie que Dieu fasse abonder, surabonder, mais l'amour qu'ils ont déjà, on a vu ça au début du chapitre, si vous regardez le chapitre 1, vous voyez, il parle de l'œuvre de leur amour, ou le travail de leur amour. Ils ont cet amour les uns pour les autres. Une chose que Dieu met donc en nous est amour. Regardez en Romains chapitre 5. Si vous voulez bien voir deux versets là-dedans. Romains chapitre 5 et le verset 8, C'est un verset que j'espère vous connaissez. Mais Dieu prouve son quoi ? Son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu nous aime, il prouve son amour envers nous. Mais reculez au chapitre 5, mais au verset 1. On voit ce qu'est l'amour de Dieu, hein, envers nous. Mais étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons devoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Verset 5. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Vous voyez, il prouve son amour envers nous, mais cet amour qu'il a pour nous, il le répand aussi dans nos cœurs. Ça vient de lui. La source est donc divine. C'est pour ça qu'il dit que le Seigneur vous fasse abonder dans son amour. Et c'est pour cela qu'en nous lisant Galates, le fruit de l'esprit, c'est-à-dire le fruit que va produire l'esprit en nous. Et la première chose qu'il mentionne, c'est quoi ? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est un fruit du Saint-Esprit. C'est un travail surnaturel. Nous devons, dans un sens, nous soumettre à ce travail. On ne peut jamais le produire indépendamment de Dieu. C'est comme si on essayait d'utiliser une machine sans qu'elle soit branchée. S'il n'y a pas de courant, le projecteur ne marche pas. Il faut du courant. Et on va peiner à aimer les gens si on tente de le faire divorcer de la présence et la puissance de Dieu et de l'amour qu'il répand dans nos cœurs par son Saint-Esprit. Chaque fois que nous manquons d'amour, ça devrait être pour nous un appel de revenir donc à Dieu dans la prière. C'est une prière. C'est un peu comme en Philippiens, quand il dit « Ce que je demande dans mes prières, Philippiens 1:9, c'est que votre amour augmente de plus en plus. » Il prie pour l'amour des Philippiens. Christ est donc la source. Et c'est pour ça que Jésus dit en Jean, à chapitre 13, verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau. » Aimez-vous les uns les autres. Bon, ça, c'est pas nouveau, hein. Deutéronome disait qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. Qu'est-ce qui est nouveau? Ben, c'est comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Vous voyez? Comme je vous ai aimé, et puis aimez-vous les uns les autres. Donc, nous sommes clairs là-dessus? La source de cet amour, c'est quoi? C'est Christ lui-même. Et c'est pas comme s'il remplit le réservoir plein d'amour et puis nous devons après nous occuper de ce grand réservoir d'amour qu'il m'a donné. Non, il faut plutôt l'imaginer comme un tuyau où l'amour vient directement et puis je le déverse après sur l'autre. Mais tant que je m'éloigne de la source, je perdrai l'amour que je dois avoir pour mon prochain. Quels sont deuxièmement donc les objets de cet amour? Les objets de cet amour. Il dit que le Seigneur vous fasse croître et abonder dans l'amour que vous avez d'abord les uns pour les autres. Nous savons que dans cette église, il y avait des juifs convertis, qui avaient beaucoup de païens aussi, et qu'il y avait pas mal de femmes riches, même, donc des païennes, mariées, certainement des païens. C'était une église multiculturelle, avec des arrière-plans très, très différents, avec des attentes culturelles et voilà, des connaissances certainement très, très variées. Et ils prient que le Seigneur leur fasse abonder dans l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Nous devons nous aimer les uns les autres. C'est comme la famille. On dit qu'on ne choisit pas sa famille. C'est vrai. Et on ne choisit pas les autres membres de la famille de Dieu non plus. Et nous devons prier pour que notre amour augmente. C'est un péché pour moi de dire « ça va, ça va ». Mon amour doit abonder. C'est ça l'idée de ces deux verbes. Ce n'est pas qu'ils sont pleins, c'est qu'ils continuent à déborder. Je dois croître dans mon amour envers les chrétiens. Mais ce n'est pas que ça. Qu'est-ce qu'il dit dans ce verset ? Vous avez les uns pour les autres et pour tous. C'est qui les tous ? Regardez au chapitre 2 et verset 14. Et là, il dit que cette église est devenue, vraiment a suivi l'exemple des églises et des chrétiens dans la Judée. Il dit, parce que vous avez vous-même, frère, vous avez subi de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Et nous savons que, si vous lisez les Actes, vous savez que les Juifs ont persécuté les Juifs chrétiens. Les Juifs non chrétiens ont persécuté les Juifs chrétiens. Et il dit, vous avez vous-même souffert la même chose de vos propres compatriotes que ces églises en Judée ont souffert. Les tous, donc, c'est qui ? C'est des gens qui nous font souffrir. C'est des gens qui se tournent contre nous. C'est des gens qui sont prêts à mettre à mort des chrétiens. Ce sont des personnes qui ont chassé Paul, Silas et Timothée de la ville. Ce sont des gens qui nous haïssent, qui nous détestent, qui ne peuvent pas nous parler gentiment. Comme les frères de Joseph. La Bible dit à un moment, ils ne pouvaient pas lui parler gentiment. Nous devons avoir cet amour pour eux. Jésus l'a dit à plusieurs reprises, il faut aimer vos ennemis. Bien sûr, on peut aimer ceux qui nous aiment. Tout le monde fait ça. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Aimez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Et ici, il dit que notre amour augmente pour tous. Et il dit après, comme aussi nous avons eu un amour pour eux, et bien évidemment, l'amour qu'avaient Paul, Silas et Timothée pour eux a commencé avant leur salut ou après leur salut. C'est clair que ça a commencé quand ? Quand est-ce que Paul, Silas et Timothée ont commencé à aimer ces personnes ? Après qu'ils soient sauvés ou avant qu'ils soient sauvés ? Certainement avant, c'est pour cela qu'ils sont venus. Je ne sais pas ce que vous avez dit, mais c'est avant, si vous regardez. Ah, je dois me convaincre, là. Pourquoi sont-ils venus ? Si vous regardez au début du chapitre 2, il dit, vous savez que, frère, que notre présence parmi vous n'est pas sans résultat, qu'après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer sans crainte l'évangile de Dieu. Et puis, il dit, nous avons été auprès de vous, on va le regarder tout à l'heure, mais il dit, comme une mère prend tendre soin de ses enfants, nous avons été aussi au milieu de vous, tant vous nous étiez chers. Cet amour qu'il avait pour eux a commencé avant qu'ils soient sauvés. Et donc, pour les tous ici, c'est certainement, ça inclut les non-chrétiens, ceux qui seront un jour sauvés. Il y en a eu parfois des difficultés avec certaines personnes non converties et parfois j'essaye de penser, et je me dis même à moi-même, il faut que j'imagine que cette personne va se convertir et va venir à mon église. Ça arrive, parfois. Il y a une fois, il y a quelques mois, où Luisante découvre sa collègue ici, au culte, enfin, à une réunion. Imaginez que vous entrez un jour, il y a votre collègue, et votre collègue vous dit, ah, c'est votre église ? Vous faites ça le dimanche ? Il faut que le Seigneur nous donne un amour pour tous. Et le Seigneur veut nous apprendre à prier pour ces choses et nous démontrer que ce n'est pas naturel d'avoir cet amour pour tous. Pas seulement les croyants, mais tous. Et puis, finalement, les manifestations de cet amour. La source de l'amour, c'est Dieu, c'est Christ, le Seigneur, qui fasse ces choses en toi. Les objets de l'amour, c'est les chrétiens, mais c'est tous. Et quelles sont les manifestations de cet amour? Alors, ce qu'il nous aide ici, c'est qu'il nous donne un modèle à suivre. Parce qu'il dit, regardez le verset 12, à la fin, que vous avez cet amour pour tous, à l'exemple de quoi? De celui que nous avons pour vous. Donc, Paul se donne, n'oubliez pas, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il se donne comme modèle à suivre dans l'amour qu'il faut avoir pour tous. Et c'est une question importante. On veut croire dans l'amour, mais c'est quoi cet amour? C'est quoi cet amour? Et il y a parfois un débat entre ceux qui disent que l'amour est une émotion et ceux qui disent que l'amour est une action. L'amour est une émotion. Je sens des frissons. Ah! Coup de foudre, j'aime! Parce que ça, c'est vraiment l'amour. D'autres qui disent non, ça n'a rien à faire avec les émotions. C'est une action. J'aime quand je donne, j'aime quand je sers, etc. Mais une émotion vide d'action n'a pas de valeur. Si on essaie d'isoler une émotion vide d'action, elle n'a aucune valeur. Par exemple, en Jacques, chapitre 2, il dit si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un d'entre vous dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous !» Pas forcément ici en hypocrisie, il se moque pas d'eux. Il a beaucoup d'émotions et est très touché par leurs besoins. Et il dit en somme « Que le Seigneur te bénisse !» Mais lui-même, vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au cœur, à quoi cela sert-il? Donc une émotion vide de toute action n'est pas vraiment l'amour, pas l'amour biblique. Si ma femme a besoin d'aide, j'ai dit « Ah Seigneur, je ne dis pas Seigneur à ma femme, mais je dis « Chérie, voilà, j'ai beaucoup d'émotions pour toi, beaucoup d'affection, mais je ne veux pas t'aider. » Mais sache que mon cœur est rempli d'émotions. Je suis sûr que ça ne va pas l'impressionner, ça ne va pas convaincre que je l'aime. Mais vous savez, une action en elle-même n'a pas de valeur non plus. 1 Corinthiens 13, vous connaissez, c'est le verset 3, c'est pas le verset 13, mais il dit « Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, donc lui, il fait ce que le gars en Jacques n'a pas fait. La personne dont parle Jacques, il ne donne rien. Mais lui, il donne tout. Et même, il livre mon corps pour être brûlé. On ne peut pas faire plus que ça. Il dit, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à quoi? À rien. Donc l'émotion sans l'action n'a pas de valeur, mais l'action... divorcer d'autres choses n'a pas non plus de valeur. L'amour doit être plus qu'une émotion, mais plus aussi qu'une simple action. Et on ne peut pas confondre l'amour avec l'action. La Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ». Mais le fait de donner n'est pas en lui-même l'amour, c'est l'amour qui est derrière, c'est l'amour qui est la motivation du don. C'est distinct quand même du don lui-même. Pour nous aider, donc, notons l'exemple de l'apôtre. Il dit « Cet amour que nous avons vers vous ». Ça nous encourage à regarder ce qu'a fait l'apôtre envers ces personnes. Donc, revenez au chapitre 2 et regardez à partir du verset 6. 1 Thessaloniciens, chapitre 2 et verset 6. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer avec autorité comme apôtres de Christ, Hein? On aurait pu faire valoir nos droits d'apôtre. Mais, verset 7, nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Notez ici que l'amour comprend d'abord une estimation de l'autre. J'estime l'autre d'une certaine façon. J'estime l'autre. Qu'est-ce qu'il dit à la fin du verset 8 ? Tant vous nous étiez devenus chers. J'estime l'autre comme étant cher. Ce mot, ça, le mot agapos dedans, souvent traduit comme bien-aimé. Tant vous nous étiez bien-aimé. C'est une estimation de l'autre. Il parle au verset 8, hein, dans notre vive affection pour vous tous. Il y a une estimation de l'autre. Je l'estime. Vous savez, on peut donner de l'argent à quelqu'un, mais d'une façon très, très égoïste et plein d'orgueil même. Et la Bible parle de ce juge inique, par exemple, la femme, elle demande, et finalement, il lui donne ce qu'elle veut, mais ce n'est pas par amour. Et parfois, même à la maison, peut-être vous êtes mieux que moi, mais vous êtes finalement tellement frustré que, oh, ok, je le fais. Mais quand je le fais, ce n'est pas avec estimation de l'autre comme étant cher. Ça ne veut pas dire qu'ils ont une valeur intrinsèque, mais pour moi, ils sont chers. J'ai un bébé, et ce bébé, pour moi, il est cher. C'est bien aimé, et nous devons avoir cette estimation les uns pour les autres. Que Dieu nous estime, pas parce que nous avons une valeur en nous, mais parce que nous sommes ses enfants, comme un père. On a lu ce matin, c'est en Somme 103, c'était le verset 13. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Donc, mais c'est deux choses. Donc, c'est une estimation de l'autre, mais qui me pousse à me sacrifier pour l'autre. Vous voyez ça au verset 8? Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, qu'est-ce qu'une vive affection pour les autres me pousse à vouloir faire? Eh bien, d'abord, leur donner l'évangile de Dieu. On donne l'évangile par une vive affection. Voici encore la preuve qu'il les aimait avant de leur donner l'évangile. Hein, parce que par leur vive affection, on voulait vous donner l'évangile de Dieu. Mais pas seulement ça, mais même notre propre quoi ? Vie. Et il dit aux Philippiens, vous pouvez le lire, je crois que c'est au chapitre 1, vers la fin, il dit, moi j'étais prêt à m'offrir comme un sacrifice pour vous. C'est-à-dire, sacrifice, ça meurt. Hein. Et il dit, moi j'étais prêt à me rendre comme ça, comme une libation. Une libation, c'est une offrande souvent de vin, mais qu'on répandait comme ça devant le Seigneur. Et donc, d'être une libation, imaginez cette image-là. Ma vie, pour vous. C'est une image forte. Et parce que je vous aime. Et il dit, après vous connaissez Timothée, il dit, j'ai aucun autre comme lui. Vous savez que tous cherchent leur propre intérêt, pas les choses de Jésus-Christ, mais vous savez qu'il est une exception. Et certainement ici aussi, une exception parce qu'il avait une estimation pour eux. Il les voyait comme chers, comme bien-aimés, et ça les poussait à se donner aussi pour les autres. Voici l'amour dans lequel Dieu veut que nous abondions. Que le Seigneur fasse abonder et déborder votre amour, dit une traduction. Que le Seigneur fasse foisonner et abonder votre amour, une autre. Que le Seigneur fasse grandir et déborder l'amour. Ou que le Seigneur vous remplisse jusqu'à en déborder d'amour les uns pour les autres et envers tous les hommes, à l'exemple de l'amour que nous vous portons. Comme Paul, il faut les aimer comme Jésus. Et prions que le Seigneur fasse, nous fasse abonder dans cet amour. Notre Père céleste, nous te remercions parce qu'en lisant ce passage, nous sommes confrontés à nos propres lacunes, notre manque d'amour. Mais quand nous considérons ton Fils, nous n'avons rien à lui reprocher. Il nous a aimés jusqu'à la fin. Nous sommes certainement les bien-aimés de Dieu. Et puis cet amour que tu as pour nous, manifesté en Jésus-Christ, ça puisse nous donner une assurance, un calme aussi, même quand les autres nous repoussent. Et nous donne la liberté d'aimer là où nous ne recevons pas l'amour en retour. J'avoue personnellement, et nous tous, je crois, nous admettons que c'est si difficile de donner l'amour quand l'amour n'est pas réciproque. Mais nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Et peut-être il y a des personnes qui vont nous aimer un jour et t'aimer aussi toi un jour parce que nous les avons aimés le premier avant qu'ils nous aiment. Aidez-nous à être des instigateurs à l'amour, d'être les premiers à aimer et à persister dans l'amour jusqu'à abonder, surabonder et déborder dans toutes nos relations, que nous puissions laisser derrière nous des empreintes d'amour pour ta gloire. Nous prions. Amen. Prenons juste quelques instants de prière silencieuse avec le Seigneur. Je vous invite à vous lever et nous allons bénir dans l'esprit de notre texte même. Que Dieu vous fasse abonder dans l'amour. Eh bien ici on dit « va en paix, dans la joie et dans l'amour ». Chers frères et sœurs, que nous allions dans l'amour. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses bras. Reçois tout son pardon, sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Que le Seigneur vous remplisse jusqu'à en déborder de son amour les uns pour les autres et pour tous. Amen.